Chapitre 12. Lettre à Frédéric van Eeden. 12 janvier 1915. Mon cher ami, vous m'offrez l'hospitalité de votre journal des Amsterdamer. Je vous remercie et j'accepte. Il fait bon se grouper entre âmes libres qui se défendent contre les passions des nationalismes déchaînés. Dans l'abominable mêlée où les peuples qui se ruent les uns contre les autres déchirent notre Europe, sauvons au moins le drapeau et rassemblons-nous autour. Il s'agit de reformer une opinion publique européenne. C'est la tâche la plus urgente. Parmi ces millions d'hommes qui ne savent être qu'Allemands, Autrichiens, Français, Russes, Anglais, etc., etc., efforçons-nous d'être des hommes qui, par-delà les intérêts égoïstes des nations éphémères, ne perdent pas de vue ceux de la civilisation humaine tout entière. Cette civilisation que chaque race identifie criminellement avec la sienne pour détruire celle des autres. Je voudrais que votre fier pays, qui a su toujours défendre son indépendance politique et morale entre les blocs énormes des grands États qui l'entourent, pût devenir en ces jours le cœur de l'Europe idéale, en qui nous avons foi. Le foyer où se concentreront les volontés de ceux qui aspirent à la reconstituer. Il en est de toutes parts qui s'ignorent mutuellement. Connaissons-les et aidons-les à se connaître. Je vous en présente aujourd'hui deux groupes importants, dont l'un nous vient du Nord et l'autre du Midi. Les intellectuels catalans qui ont fondé à Barcelone la Société des Amis de l'Union Morale de l'Europe, je vous envoie leur beau manifeste, et l'Union of Democratic Control, qui a surgi à Londres de l'indignation causée par cette guerre européenne et de la volonté ferme que les diplomaties et les partis militaires soient mis dans l'impossibilité d'en provoquer jamais une seconde. Je vous en fais envoyer les programmes et les premières publications. Cette Union, qui compte dans son Conseil général des membres du Parlement et des écrivains comme Israel Zangwill, Norman Angel, Vernon Lee, a déjà des ramifications dans 20 villes de la Grande-Bretagne. Entre ces organisations, dont chacune a sa couleur de race et sa physionomie individuelle, mais qui toutes visent à rétablir par des moyens divers l'unité européenne, tâchons de former des liens intimes et permanents. Prenons conscience avec elles de notre force commune. Ensuite, nous agirons. Quelle sera notre action ? De tenter d'arrêter le combat, il n'y faut plus songer. La bête est lâchée, et les gouvernements se sont si bien appliqués à déchaîner les violences et les haines que, quand ils le voudraient à présent, ils ne pourraient plus la faire rentrer dans le chenil. L'irréparable est accompli. Il est possible que les neutres d'Europe et les États-Unis d'Amérique se décident un jour à s'interposer pour essayer de mettre fin à une guerre qui, en s'éternisant, menace de les ruiner, aussi bien que les belligérants. Mais je ne sais ce qu'il faut attendre de cette intervention trop tardive. En tout cas, je vois un autre emploi à notre activité. Que la guerre soit ce qu'elle soit, nous n'y pouvons plus rien. Mais nous devons au moins tâcher que de ce fléau sorte le moins de mal et le plus de bien possible. Et pour cela, il faut intéresser l'opinion publique du monde entier à ce que la paix future soit juste, à ce que les appétits du vainqueur, quels qu'ils soient, et les intrigues de la diplomatie n'en fassent plus l'amorce d'une nouvelle guerre de revanche, à ce que les crimes moraux commis dans le passé ne se renouvellent plus ou ne s'aggravent encore. C'est pourquoi je regarde comme un principe sacré ce premier article de l'Union of Democratic Control, qu'aucun pays ne puisse passer d'un gouvernement sous un autre sans le consentement explicite, librement affirmé, de sa population. Il s'agit de faire justice des maximes odieuses qui ont trop longtemps pesé sur le monde esclave et que, récemment encore, le professeur Lasson osait répéter, comme une menace prochaine, dans son cynique catéchisme de la force, « Das Kultur ideal und der Krieg ». Et il faut que ce principe soit posé tout de suite, sans attendre. Si l'on remettait, pour le proclamer, au moment où, la guerre finie, se réunira le congrès des puissances, on serait suspect de vouloir faire servir la justice au profit du vaincu. C'est à présent, où les forces des deux parties sont égales, qu'il faut établir ce droit primordial qui plane au-dessus de toutes les armées. De ce principe découle une application immédiate. Puisque l'Europe tout entière est bouleversée, qu'on en profite pour faire de l'ordre dans cette maison malpropre. Depuis longtemps, on y a laissé s'accumuler les injustices. C'est le moment de les réparer, quand viendra l'heure de la liquidation de comptes générale. Notre devoir, à tous ceux d'entre nous qui ont le sentiment de la fraternité humaine, est de rappeler alors les droits des petites nationalités opprimées. Il en est dans les deux camps, Schleswig, Alsace-Lorraine, Pologne, nations baltiques, Arménie, peuple juif. Au début de la guerre, la Russie a fait de généreuses promesses. La conscience du monde les a enregistrées. Qu'elle ne les oublie point. Nous sommes solidaires aussi bien de la Pologne écartelée entre les serres des trois aigles impériales que de la Belgique crucifiée. Tout se tient. C'est parce que nos pères ont laissé, par réalisme borné et par peureux égoïsme, violer les droits des peuples de l'Europe orientale qu'aujourd'hui l'Occident est broyé et la menace suspendue sur tous les petits peuples, sur le vôtre, mes amis, comme sur celui dont je suis l'hôte, sur la Suisse. Qui fait tort à l'un d'eux fait tort à tous les autres. Unissons-nous. Au-dessus de toutes les questions de race, qui ne sont le plus souvent qu'un mensonge, sous lequel se dissimule l'orgueil de la multitude et l'intérêt de castes financières ou féodales, il y a une loi humaine, éternelle, universelle, dont nous devons tous être les serviteurs et les défenseurs. C'est celle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et qui viole cette loi, qu'il soit l'ennemi de tous. Romain Rolland, de Amsterdamer, Weckblatt voor Nederland, 24 janvier 1915. Chapitre 13. Notre prochain, l'ennemi. 15 mars 1915. Tandis que l'ouragan de la guerre continue de faire rage, déracinant les âmes les plus fermes et les entraînant dans son tourbillon furieux, je continue mon humble pèlerinage, cherchant à découvrir sous les ruines les rares cœurs restés fidèles à l'ancien idéal de la fraternité humaine. Quelle joie mélancolique j'ai à les recueillir, à leur venir en aide. Je sais que chacun de leurs efforts, comme les miens, chacune de leurs paroles d'amour, soulève et retourne contre eux l'inimitié des deux camps ennemis. Les combattants aux prises sont d'accord pour haïr ceux qui refusent de haïr. L'Europe est devenue telle qu'une ville assiégée. La fièvre obsidionale y règne. Qui ne veut point délirer comme les autres est suspect. Et dans ces temps pressés, où la justice ne s'attarde point à étudier les procès, tout suspect est un traître. Qui s'obstine à défendre, au milieu de la guerre, la paix entre les hommes, sait qu'il risque pour sa foi, son repos, sa réputation et ses amitiés mêmes. Mais que vaudrait une foi pour qui on ne risque rien? Certes, elle est mise à l'épreuve en ces jours dont chacun nous apporte l'écho retentissant de violence, d'injustice, de cruauté nouvelle. Mais ne le fut-elle pas davantage au temps où elle fut confiée aux pêcheurs de Judée, par celui que l'humanité prétend révérer toujours, des lèvres plus que du cœur? Les flots de sang, les villes incendiées, toutes les atrocités de l'action et de la pensée n'effaceront jamais dans nos âmes tourmentées le sillage lumineux de la barque de Galilée, ni les vibrations profondes des grandes voix qui, à travers les siècles, proclamèrent la raison patrie de tous les hommes. Il vous plaît de les oublier et de dire, comme le font tels de vos écrivains qui sonnent de la trompette, que de cette guerre date une ère nouvelle du monde, un bouleversement de toutes les valeurs, et que d'elles seulement commenceront de compter tous les mérites à venir. C'est le langage de tous les passionnés. La passion passe, la raison reste. La raison et l'amour. Continuons d'en chercher parmi les décombres ensanglantés, les jeunes pousses nouvelles. Le bien que nous fait au cœur, en ces jours frissonnants de mars capricieux, la vue des premières pousses qui pointent de la terre, je le ressens quand je trouve, perçant la croûte glacée de haine dont l'Europe se recouvre, de grêles et vaillantes fleurs de pitié humaine. Elles attestent que la chaleur de vie persiste au fond du sol, que l'amour fraternel persiste au fond des peuples, et que rien ne l'empêchera bientôt de ressurgir. J'ai, à diverses reprises, montré dans les pays neutres des refuges de cet esprit européen qui semble pourchasser des pays belligérants par les armées de la plume, plus féroces que les autres, car elles ne risquent rien. Les efforts faits en Hollande ou en Espagne pour tâcher de sauver l'unité morale de l'Europe, l'ardente charité, l'assistance inlassable que la Suisse prodigue aux malheureux, aux prisonniers, aux blessés, aux victimes de l'un et l'autre camp, sont un grand réconfort pour les âmes oppressées qui, par tous les pays, suffoquent dans l'atmosphère de haine qu'on leur impose et aspirent à un air plus pur. Mais je trouve plus belles encore et plus touchantes les manifestations dans les pays belligérants, si rares, si chétives soient-elles, d'entraide fraternelle entre amis et ennemis. Si les deux peuples entre qui la guerre actuelle semble avoir creusé un abîme de rancune et de malentendus, c'est l'Angleterre et l'Allemagne. Les écrivains et publicistes allemands, dont le mot d'ordre est de professer pour la France plus de sympathie apitoyée que d'animosité, et qui même s'efforcent de distinguer entre le peuple russe et son gouvernement, ont voué à l'Angleterre une haine immortelle. Hasse England est devenu leur Delenda Carthago. Les plus modérés déclarent que la lutte ne peut finir que par l'anéantissement de la Seherrschaft, domination des mers, britannique. Et la Grande-Bretagne n'est pas moins résolue à pousser le combat jusqu'à l'écrasement total du militarisme allemand. Or, c'est précisément entre ces deux nations qu'ont été noués et maintenus les plus nobles liens d'assistance mutuelle aux misères de l'ennemi. Deux jours après la déclaration de guerre, était fondée à Londres par l'archevêque de Canterbury et par des personnalités connues, telles que J. Allen Baker, Right Honourable W. H. Dickinson, membre du Parlement, Lord et Lady Courtenay of Penwith, l'Emergency Committee for the Assistance of Germans, Austrians and Hungarians in Distress, le Comité d'assistance aux Allemands, Autrichiens et Hongrois dans le besoin. Cette œuvre, qui rayonne sur une partie de l'Angleterre, s'occupe de payer les frais de rapatriement des civils sans ressources, d'accompagner dans leur voyage de retour les femmes et les jeunes filles allemandes, d'hospitaliser dans les familles les Allemands pauvres et de leur trouver du travail. À la fin de décembre, près de 200 000 francs avaient été dépensés pour cet objet. Plusieurs sous-commissions visitent les camps de prisonniers, facilitent les moyens de correspondre entre pays belligérants, ou se sont chargés, pour Christmas, de remettre aux internés ennemis plus de 20 000 paquets et 200 arbres de Noël. Une autre société anglaise, déjà existante avant la guerre, Society of Friends of Foreigners in Distress, la Société des Amis d'étrangers dans le besoin, entretient régulièrement 1500 familles allemandes et autrichiennes. Enfin, le bureau central de Londres de la Ligue universelle pour le droit de vote des femmes a rendu de grands services à des étrangères, en payant leur voyage de retour à 700-800 femmes. En Allemagne s'est fondé, à Berlin, un bureau analogue de renseignement et de secours pour les Allemands à l'étranger, et les étrangers en Allemagne. Auskunfts- und Hilfsteller für Deutsche in Ausland und Ausländer in Deutschland. On trouve parmi ses membres des noms aristocratiques, des notabilités religieuses et universitaires. Frau Marie W. Bülow-Merlins, Hélène Gräfin Harrasch, Nora Freien, W. Schleinitz, les professeurs W. Förster, D. Baumgarten, Paul Nathorp, Martin Rade, Sigmund Schulze, etc. À la tête est une femme d'un haut esprit religieux, la docteure Elisabeth Rotten. comme on peut le penser, une œuvre de ce genre n'a pas été sans se heurter aux soupçons et aux oppositions nationalistes. Mais elle a passé outre, elle persiste. Et voici en quels termes elle revendique sa haute mission en face des aboyeurs du chauvinisme germanique. Depuis le commencement de la guerre, nous avons senti l'obligation de nous occuper des étrangers aux prises avec des difficultés en Allemagne. Des efforts comme les nôtres sont aussi impopulaires dans notre pays que dans les autres pays. En un temps où le peuple allemand tout entier fait corps contre l'ennemi, il paraît à beaucoup superflu de rendre à ceux qui appartiennent aux États ennemis plus que les services de droit stricts auxquels on est tenu. Mais ce n'est pas seulement la pensée des nôtres à l'étranger qui nous pousse à cette œuvre. C'est notre propre désir de rendre des services d'amis, Freundendienste, à ceux qui, sans leur faute, souffrent des suites de la guerre. Même en ces temps de guerre, il est notre prochain, quiconque a besoin de notre secours. Et l'amour de l'ennemi, Feindesliebe, reste le signe de reconnaissance entre ceux qui gardent leur foi dans le Seigneur. Nous avons pu rassurer des familles allemandes sur le sort de leurs membres en pays ennemis, et donner en retour à des étrangers la certitude que les leurs, dans notre pays, s'ils ont besoin de secours, en peuvent trouver auprès de nous. Nous avons pu rendre les services du prochain, Nächstendienst, à d'innocents ennemis, en qui nous voyons des frères et des sœurs d'humanité. Au-dessus et au-delà de l'aide pratique que nous pouvons donner, ce nous est une consolation et un réconfort de pouvoir librement prêter l'oreille, même en une pareille période, à la voix de l'humanité et de l'amour du prochain. Le tragique qui de tous côtés déborde sur la terre, qui remplit tout notre être d'un respect religieux devant la souffrance humaine, mais aussi d'un amour agissant et d'un besoin de se donner, élargit nos âmes et n'y laisse plus de place qu'à des sentiments d'affirmation et d'action bienfaisante. Notre soif de venir en aide et d'adoucir les peines ne connaît pas de frontières. Oui, ce besoin jaillit avec plus de force là où nous retrouvons dans la souffrance la plus étrangère les traits de notre propre souffrance. Ce qui unit les hommes touche à des racines plus profondes de notre être que ce qui les sépare. Que nous puissions panser les blessures que nous sommes contraints de faire, et qu'il en soit de même en pays ennemis, nous est un gage des jours plus clairs qui luiront. Au milieu de la tourmente qui ruine autour de nous tant de choses que nous tenions dignes d'une éternelle durée, la possibilité d'une telle action cuirasse notre courage et nous donne l'espoir que de nouveaux ponts seront rebâtis, sur lesquels les hommes qui se trouvent maintenant éloignés s'uniront de nouveau, intimement, en un commun effort. Je dédie la lecture de ces saintes paroles à mes amis du peuple de France, qui si souvent m'ont écrit ou fait dire leur sympathie pour de telles pensées et leur foi persistante dans l'humanité. Je les dédie à tous ceux de France qui, même en ces jours de guerre, par leur justice d'esprit, par leur bonté de cœur, contribuent à faire aimer la patrie, autant qu'elle se fait admirer par ses armes, à ceux qui lui assurent ce nom, que je lisais avec émotion sur une carte postale écrite hier, à son passage à Genève, par un grand blessé allemand rapatrié, le nom de Gutes Frankreich, Bonne France, ou, comme disaient nos vieux écrivains au cœur tendre, Douce France, Romain Rolland. Je profite de l'occasion pour recommander à mes lecteurs français l'œuvre de Madame Arthur Spitzer à Genève, Le paquet du prisonnier de guerre. Cette œuvre, qui a des correspondants à Paris, s'est fondée en novembre pour apporter un soulagement à la misère de ceux des prisonniers français, belges et anglais, que leurs familles sont dans l'impossibilité de secourir. Elle engage tous ceux qui veulent envoyer un paquet à un parent ou ami prisonnier à y joindre, autant que possible, un envoi semblable pour un autre prisonnier, un de leurs compatriotes sans parents, sans amis, sans ressources. Puisse cette belle pensée de solidarité s'élargir encore plus tard, en des temps plus humains, de telle sorte que chacun de ceux qui secourent un de leurs prisonniers veuille en même temps secourir un prisonnier ennemi. Romain Rolland, Journal de Genève, 15 mars 1915.